בעזרת השם, דו פרשות סצומן בהר, בהר ובחוקותיי, לדו דרניר פרשות דו ליב דו ויקרא, פורטמונה לטרוזם ליב, אפובוה קומנסה לקטחים ג'וסטבון שבועות. En Israël, cette semaine, ils vont lire une seule paracha, c'est Behar, parce qu'ils sont en avant de nous. Et là, on va lire le 2 pour se rattraper. Et Bezrat Hashem, le quatrième livre sera pour le monde en entier, le même livre qu'on va commencer. Parachat Behar, la première paracha. Le grand sujet de la paracha, c'est l'année sabbatique, qu'on appelle Shemitah. La Torah nous donne une mitzvah de travailler la terre 6 ans et à la 7e la faire reposer. Avant d'expliquer cette paracha, il faudra peut-être expliquer quelques lois avant d'arriver à cette paracha pour comprendre de quoi, qu'est-ce que la Torah veut de nous. Alors voilà quelques lois qui seront pour vous utiles si vous pensez de voyager dans le proche futur en Israël. Ou n'importe quel moment que vous allez voyager en Israël, ce serait très utile de savoir ces lois, car ces lois s'appliquent que sur la terre d'Israël. Ça ne s'applique pas en dehors d'Israël, c'est que sur Israël. Les lois sont les suivantes. Quelqu'un qui a un champ, un fermier, un propriétaire, n'importe lequel, il a un champ qui produit des fruits, des légumes, il a l'obligation de prélever certaines quantités de sa récolte et la distribuer. Alors on va expliquer comment ça marche. Par exemple, quelqu'un, son terrain a produit, on va dire, 1 tonne de blé, de graines de blé, c'est-à-dire des épis de blé. Maintenant, il a l'obligation de prendre 2% de cette grosse quantité et le donner à un Kohen. Il le donne à un Kohen 2% de sa récolte, de ce qui va être la récolte. Il lui reste 98% et de cela, il donnera 10% à un Lévi. Si quelqu'un est Lévi, il le connaît, il lui donnera 10% du 98% qui lui reste. De ce qui lui reste, il donnera 10%, mais ces 10%, c'est pour cette fois, c'est pour lui-même. Mais il y a une condition à ces 10%. Ce 10% s'appelle Maaser Sheni, la deuxième dîme. La première dîme, qui est le 10%, il a donné à un Lévi. La deuxième fois, il le donnera à soi-même, mais la Torah l'oblige de la manger à Jérusalem. Qui veut dire que c'est de la récolte, il peut la manger, mais pas chez lui. Même s'il habite Israël, il est obligé d'aller à Jérusalem, il peut le manger juste à côté du temple, ou à la région de Jérusalem, tant qu'il peut voir le temple de là où il se trouve. Ça veut dire que ça peut être sur une montagne. Tant que la montagne, la vue de la montagne donne sur le temple, il peut le manger. Plus loin que ça, il ne peut pas manger. Ça veut dire que le 10% que c'est pour la personne lui-même, mais il y a une obligation de le manger à Jérusalem. Maintenant, même à cela, il y a des sous-lois qui s'appliquent. Qu'est-ce qui arrive si la personne habite trop loin de Jérusalem? Et elle ne peut pas venir à... Avant, il y avait la mitzvah de pèlerinage, aliyah la regel. Et c'est trop loin pour elle. Il ne peut pas. Et cette année, peut-être, sa femme vient d'accoucher et lui, il est occupé. Il ne peut pas venir. La Torah lui donne la chance de racheter la sainteté qui se trouve dans ses fruits. Le fruit de deuxième dîme sont kadosh, sont saints. Mais ils ont une sainteté qui peut se manger à la personne, mais dans un certain endroit. Maintenant, qui ne peut pas venir et manger. Et s'il attendra quelques mois, tout va pourrir. Dans ce cas, la Torah lui donne la chance de racheter ses fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il évalue combien valent ou combien vaut le 10% de ce fruit qu'il veut donner. On va donner un montant. On va dire que c'est 1 000 $. Il prend 1 000 $, il le met de côté, il mange les fruits, lui et sa famille. Et le 1 000 $, il le gardera jusqu'à la prochaine occasion qu'il montera à Jérusalem. À la prochaine occasion, il y a trois occasions de pèlerinage. Il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est les trois grandes fêtes où on a l'obligation de monter à Jérusalem, si on peut. Et là, qu'est-ce qu'il fera cette personne avec le 1 000 $ qu'il a mis de côté? Arrivé à Jérusalem, il ira sur le marché de Jérusalem et il achètera n'importe quoi qui est consommable. Fruits, légumes, viande, poisson, n'importe du vin, n'importe quoi qui est consommable, il va dépenser la somme au total pour le manger. Il peut le manger lui, pas seul. Il peut le manger avec sa femme, ses enfants, des invités, mais encore avec la condition que ce soit à Jérusalem et dans un endroit où il peut voir Jérusalem. Ça, c'est le rattrapage qui n'a pas pu venir la dernière fois. Il rachètera la sainteté de ses fruits et avec l'argent, il achètera une autre fois du manger pour pouvoir le manger à Jérusalem. Ce maaser, ce deuxième dîme, s'appelle maaser sheni, la deuxième dîme. Et on a un autre type de maaser, un autre 10%, qu'on appelle maaser ani, du maaser qui se donne aux pauvres. Maintenant, il y a un cycle. Comment ça marche? Première année, après l'année sabbatique, première année, année numéro 1, il y a trois prélèvements. Premier prélèvement, c'est le 2%, Trouma. Trouma se donne au Kohen. Deuxième prélèvement de la même année, c'est le Maaser, la dîme qui est 10% du 98 qui lui reste, qui se donne au Lévi. Troisième prélèvement dans la première année, c'est le Maaser Sheni, la deuxième dîme. Ça, c'est pour la première année. Deuxième année, ce prélèvement-là se répète sur eux-mêmes, qui veut dire Trouma, 2%, Maaser, Olevi, 10%, et de ce qui reste, Maaser, Sheni, pour la personne elle-même, pour manger à Jérusalem. Deuxième année. Troisième année, on remplace le troisième prélèvement, qui veut dire, troisième année, il donnera Trouma, 2% en Cohen, 10% de ce qui reste, Olevi. Mais le troisième maaser, la troisième dîme, ce n'est plus pour lui, c'est pour le pauvre. Ça, c'est la troisième année. Quatrième année, on revient en premier cycle. Trouma, Cohen, Lévi, pour soi-même, maaser sheni. Cinquième année, Trouma, au Cohen, Lévi et maaser sheni, pour lui. Sixième année, on remplace le maaser sheni par maaser ani. Alors, on donnera au Cohen, au Lévi et aux pauvres. Septième année, sabbatique. Personne. Dans septième année, il n'y a aucun prélèvement. Tout le monde sont égal. Tout le monde peut venir dans le champ, manger, profiter, tant qu'ils veulent. Il n'y a pas 10%, 2%. La personne peut prendre autant de pourcentage qu'elle veut. Le propriétaire, lui aussi. Ça, on va expliquer un peu plus tard. Mais d'abord, le concept. Maintenant, Bezrat Hashem, si vous arrivez d'aller dans le proche futur à Jérusalem ou en Israël, sachez que comme il y a des magasins, il y a des boucheries qui sont obligés d'avoir une Théouda, alors les fruiteries aussi ils sont obligés d'avoir une Théouda, un certificat de cacheroute. C'est quoi le certificat de cacheroute? Le certificat vous garantit que le propriétaire a prélevé tous ceux prélèvements qu'on vient de dire. Ça veut dire que Trouma, 2% qui vont en Cohen. Maaser, 10% qui vont au Lévi. Et le Maaser Sheni dans les deux premières années, Maaser Ani à la troisième année. Sinon, si vous mangez une récolte qui n'a pas été prélevée, surtout la Trouma, Rabbi Shalom, la Torah décrète une peine de mort à celui qui le mange. Hayav Mita. Alors c'est obligatoire, c'est plus que la viande, c'est plus que manger non cochère. Celui qui a mangé non cochère, c'est quoi la punition? Flagellation. S'il y a deux témoins qui l'avertissent, hey, « Hé, pourquoi tu rentrais dans cette boucherie? C'est pas cachère. » Deux personnes lui disent, il dit, « Non, mais ça ne me regarde pas, je ne cherche pas une touda, moi. » Il sort avec la viande, il le cuit, il le mange. Ces deux témoins, s'il vient au tribunal, le tribunal peut convaincre cette personne, lui donner la flagellation. Plus aujourd'hui, parce que la loi n'est plus la même, mais je parle selon les lois de la Torah, c'est pas plus que la flagellation. Ça fait mal, mais c'est pas plus que ça. Les récoltes, les fruits, c'est pire. Chayav mita, c'est la peine de mort. Top. Alors ça, c'est une obligation. Maintenant, vous allez en Israël. Malheureusement, ce n'est pas dans toutes les villes en Israël qu'il y a de la Touda. Tu vas à Jérusalem, oui, plusieurs disent. Tu vas à Bnei Brak, presque tout le monde disant. Mais tu vas dans les autres grandes villes, Netanya, Tel Aviv, Haïfa, presque tu ne trouves pas. Peut-être les grands supermarchés, peut-être, mais pas tout le monde qui l'ont. C'est ça? Tu demandes à un fruitier, tu as une Touda? Bétard, monsieur. Tu dis, mais je vois rien, où la Touda? Mais tu ne vois pas Baba Sali, tu ne vois pas le Rebbe qui est là-bas. C'est comme ça qu'ils vous répondent. Il y a un rabbin Chacham qui lui a dit, vous savez, si toi tu serais accroché là-bas, le Baba Sali ici, je l'aurais acheté. Mais maintenant que lui il est là-bas et toi tu es ici, je ne peux pas l'acheter. Mais c'est ça la réponse, bétard. S'il n'y a pas Touda, vous n'achèterez pas dans une boucherie qui n'a pas un certificat, vous n'achèterez pas dans une fruiterie légumes ou fruits qui n'a pas une touda. Surtout dans une année sabbatique, c'est pire. Mais on va expliquer plus tard. C'est ça? Maintenant, il y a une manière, vous êtes dans la situation, vous êtes là-bas, vous êtes quelque part, il n'y a pas une fruiterie qui porte un certificat. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez le faire vous-même. Un peu compliqué, on va expliquer, vous pouvez le faire vous-même. Même dans le Patach Eliaou, ils ont pris déjà la précaution et la notion de le faire. Si vous regardez votre Patach Eliaou à la page 373, ils apportent là-bas toutes les lois de prélèvement. Comment? Vous achetez, vous allez sur le marché, vous achetez des tomates, des concombres, des fruits, des autres légumes, tout ce que vous voulez, vous emmenez des sacs. Vous l'emmenez, vous les mettez sur la table. Vous les mettez sur la table tout ensemble. Ça veut dire dans le sac, tout sur la table. Il y a un texte dans le Patach Eliaou, c'est un texte courant, qui est tout le Sidouri Milan. Il y a un texte qui vous dit, voilà, je prélève tout ça. Mais avant de le faire, vous êtes obligé d'avoir une grande pièce du pays. En Israël, c'est du shekel. Ça, cette loi, encore, ne s'applique pas au Canada. Ni aux États-Unis, ni en Chine, ni en Australie, ni à aucune part dans le monde. Ça ne s'applique qu'en Israël. Alors, vous prendrez la plus grande pièce qui se trouve en Israël. Je crois, je sais pas, mais je crois en Israël, c'est le 10 shekel, le plus grand aujourd'hui. Vous avez une pièce de 10 shekel, vous la prenez et vous dites comme ça. Dans le texte, vous allez lire le texte va vous guider. Le texte vous guide, qu'est-ce qui se passe exactement. Vous dites que ces fruits-là, ils sont sacrés. Maintenant, vous voulez acheter cette sainteté qui est imprégnée sur les fruits, c'est quelque chose de spirituel. On ne peut pas l'acheter. Alors, on dit comme ça, c'est symbolique, mais avec beaucoup de ça veut dire de du poids qui c'est à la rapporte en elle. Vous dites que je rachète toute la sainteté de ces fruits sur un sou, sur la valeur d'un sou, dans ma pièce. Dans ma pièce, je dis shekel. Alors j'achète toute la sainteté de ce fruit sur un sou dans ma pièce. Et là, vous suivez le texte, et ça dit au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, et tout est prélevé. Vous l'achetez, ça veut dire vous le faites, vous lisez le texte. Après, vous prenez par exemple de tout le tomate, vous prenez une petite tomate, vous le coupez un petit morceau. Vous prenez, je sais pas, de pommes que vous avez achetées, vous prenez une pomme, vous enlevez un petit morceau, de chaque espèce vous prélevez un petit morceau, vous le mettez dans un sac, vous le jetez à la poubelle, et là vous pouvez tout consommer. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Vous avez une pièce qui n'est pas utilisable. Parce que la pièce en elle, il y a la kedusha, il y a la sainteté. Mais cette pièce, ce n'est pas pour une fois. Je rachetais la sainteté de ce fruit et des légumes sur un sou. Ça veut dire qu'il me reste encore minimum 999 fois encore de le faire. Et là, j'achète et je fais, le jour que vous dites, ah, je crois que je m'approche à la fin de cette pièce, qu'est-ce que je fais? Je prends une autre 10 shekels. Et je dis que toute la sainteté qui s'est ramassée dans ce 10 shekels, je la transfère sur un sou dans la nouvelle pièce. La première pièce devient profane et la deuxième, elle devient maaser, ça veut dire acheter de maaser, et je le garde de côté. C'est une pièce qu'on ne peut pas dépenser, il faut toujours la garder, il faut mettre un petit sticker maaser ou trouma pour pouvoir l'utiliser. Une fois que je termine avec cette pièce, j'enlève le sticker, j'utilise la pièce et je garde la nouvelle pièce. Ça, c'est dans le cas que vous avez acheté dans une fruiterie où il n'y a pas la Teouda. Vous le faites vous-même. Même si vous n'avez pas un Patach Eliaou en Israël, vous aurez n'importe quel sidour, ils ont tous. Tous les sidourim, ils ont ces lois de prélèvement. Et c'est très important. Surtout, même si vous ne pensez pas aller en Israël, maintenant c'est l'été, vous allez voir à Costco, vous allez voir d'un grand marché des fruits et légumes, ils vont commencer à faire des importations des fruits et légumes de partout dans le monde. Le Chili, l'Australie, je ne sais pas de ce qu'ils amènent. Israël aussi. Israël envoie des oranges Jaffa. Israël envoie des dattes, la marque Carmel. Israël envoie des pastèques, c'est ça, à Costco. Israël envoie des piments rouges, c'est ça, et le persimo, le kaki aussi. Il y a le il s'y trouve à plusieurs magasins. Vous allez voir sur le marché, il y a des fruits d'Israël. Là, par réflexe, vous dites, ah, c'est bon, ça vient d'Israël, au contraire, c'est la Kedusha d'Israël, et je vais supporter Israël, j'ai envie de les acheter. Non. Si vous savez faire ce qu'on vient d'expliquer, oui, vous allez supporter Israël, et c'est une mitzvah de supporter Israël. Au contraire, ça serait bien. Mais si vous ne savez pas le faire, il vaut mieux de ne pas l'acheter pour ne pas se compliquer. Il vaut mieux pas acheter et se compliquer quelque chose qui est chayav mita. Alors c'est mieux, si vous ne savez pas le faire, ne l'achetez pas. Laissez-le. Si vous savez l'acheter, oui, achetez-le. Pourquoi? Toute l'exportation qui se fait en Israël, ils ne prélèvent pas les dîmes. Ils n'enlèvent pas le trumot de Maasrot. Ils le mettent sur la responsabilité de l'acheteur. Dans ce cas, il faut faire attention. Si vous trouvez n'importe quoi d'Israël ici, puisque ça a poussé en Israël, il faut faire attention. Surtout dans l'année sabbatique qu'on va expliquer bientôt. Ça, c'est durant les premières 6 années. Maintenant, je sais, peut-être ça vous choque un peu, peut-être ça vous étonne un peu, mais vous le faites presque chaque semaine, sans réaliser. Quand vous faites votre challah, c'est quoi la challah? Prélèvement de quoi? Trouma. C'est la trouma. C'est la trouma de la pâte. Nous, on vient de parler de la trouma de quoi? Des fruits et des légumes. Mais attention, les blés, c'est quelque chose qui pousse par terre. C'est la récolte du champ. Le blé, une fois transformé en farine, mélangé avec de l'eau, ça donne une pâte. Qu'est-ce que vous faites? Vous prélevez un morceau. Ces morceaux-là, c'est la trouma. Maintenant, attention, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, à l'époque où il y avait le temple, le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on faisait avec? On ne prélevait pas un petit poignet. Qu'est-ce que vous prélevez maintenant? Un petit poignet. Vous rentrez la main dans la pâte, vous faites votre bracha juste avant de prélever. C'est ça? Vous prélevez le morceau et vous le mettez de côté. C'est ça? À l'époque du temple, on ne prélevait pas un petit morceau comme ça. On prélevait un morceau qui donnera une miche de pain. C'est-à-dire quelque chose de respectueux qu'on puisse donner au Kohen. À qui on donnait ça? Au Kohanim. Alors on donnait pas un... Qu'est-ce qu'il va faire le Kohen avec ça? Même pas un chalarol. Alors qu'est-ce qu'il va faire un petit morceau comme ça? Rien. Alors on donnait un grand morceau pour qu'il puisse faire un chalal l'Ikhvot Shabbat. Alors on lui donnait ça. Mais le problème, aujourd'hui, il y a une condition. Le Kohen qui le reçoit, lui aussi, il a des critères à respecter. Le critère, il doit être pur. Il n'a jamais touché un cadavre d'un mort, il n'est jamais rentré dans un cimetière. Alors c'est sûr, presque aucun Kohen ne va rentrer dans un cimetière. Oui. Alors maintenant, si un Kohen rentre au cimetière, il a profané sa kedusha, automatiquement il est impur. Mais qu'est-ce qui arrive si le Kohen n'est pas rentré? Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas Kohen, qui est rentré pèleriné au cimetière. Il sort du cimetière. Quelques heures plus tard, il rencontre M. Cohen, son ami. Comment ça va, M. Cohen? Ça va? Il lui serre la main. Il est impur. Il n'est pas obligé de rentrer. Le fait de toucher quelqu'un qui est impur, le Cohen devient impur. Tous les Kohanim aujourd'hui sont impurs, malheureusement. Même s'ils ne rentrent pas au cimetière. Parce qu'il est impossible qu'ils n'ont jamais touché quelqu'un qui est parti au cimetière. Ce qui fait que même la trouma que nous prélevons de la challah, nous ne pouvons pas leur donner. S'il le mange, lui, il est chayav mita. Si le Kohen n'est pas pur, il le mange, c'est lui qui est responsable de peine de mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec aujourd'hui? On le détruit, malheureusement, on doit le brûler. On doit le brûler. Entre parenthèses, on ne peut pas le brûler en même temps qu'on cuit notre challah. Parce que c'est de la récolte sacrée. On ne peut pas cuire cette récolte, ça veut dire cette challah, avec la challah normale qu'on va cuisiner pour Shabbat. On n'est pas Kohen. Et même le Kohen lui-même ne peut pas le faire. Dans ce cas, il faut le brûler ou avant de commencer à cuire nos challot, ou après. Mais pas ensemble. Il y en a qui préfèrent Bechlal de ne pas les cuire dans le four. À New Jersey, il y a une communauté de... Ça veut dire que c'est une communauté religieuse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prélèvent les challot et ils les gardent au congélateur. Et il les sort une fois par année, Pessach. Et il les brûle tout avec le Hametz. Et c'est tout un stock. Chaque semaine, ça fait 52 minimum. 52, plus les fêtes, plus s'il y a un Shabbat Brachot ou quelque chose. Il a tout un stock dans le congélateur. Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui le gardent ça pour le brûler à part, pour ne pas l'avoir brûlé dans son four. Mais pour vous dire, c'est sacré. On ne peut pas le cuire en même temps que la challah. Il faut ou avant. Si vous le faites avant, vous le brûlez. Une fois brûlé, vous sortez, vous laissez le four allumer 5-10 minutes pour qu'il brûle toute la vapeur de cette challah. Et après, vous rentrez votre challah. Si vous rentrez à la fin, c'est moins problématique. Vous cuisinez votre challah, vous le mettez sur le côté. Après, vous prenez et vous rentrez ça dans le four. Il n'y a rien déjà, vous n'allez rien cuire et vous le faites. Maintenant, alors vous voyez où il y en a qui ne le brûlent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la challah, ils le mettent dans deux sacs, deux enveloppes et ils le jettent à la poubelle. Ça, c'est aussi valable. Vous pouvez ou la jeter, mais il faut l'envelopper avec deux sacs. Il faut mettre dans un sac et après un deuxième sac, l'attacher et le jeter. Ça, c'est aussi possible de faire. Pour ne pas avoir le brûlé dans le four. Mais si vous brûlez, il faut aussi respecter les règles comment brûler. Maintenant, regardez. Alors, on voit bien que qu'est-ce qu'on fait avec la challah? On la détruit, on la brûle. Pour que même pas un kohen profite de cela. Imaginez-vous un peu, combien de marchands de fruits et de légumes il y a en Israël? C'est quand la dernière fois que vous étiez en Israël? Chaque coin, il y a de fruits et de légumes, mais c'est pas comme ici. C'est des petits comme ça. Là-bas, chaque. L'année dernière, je suis rentré avec mon fils. Il était la première fois en Israël. On est rentré dans un fruiterie. Il a dit, c'est quoi cette bonne odeur? Il pensait que c'est comme ici. On mettait le plug-in. Il m'a dit, c'est quoi ce qu'ils mettent comme bonne odeur ici? Je lui ai dit, c'est les fruits. Il dit, non, c'est pas possible. Jamais un fruit comme ça. Il dit, Rigo, approche-toi, tu vas voir. C'était les pêches. Et c'est incroyable l'odeur que ça dégage. C'est vraiment, c'est des vrais fruits. C'est pas des fruits qui sont les pauvres, congelés. Et le temps qu'ils décongèlent, ils ont plus de goût, plus d'odeur. C'est des vrais fruits. Et c'est à chaque coin. Maintenant, imaginez-vous, faites le compte. Combien de fruits on doit brûler ou détruire? Parce qu'on peut pas, on n'a pas de kohanim à donner. Prenez tout Israël, toutes les villes d'Israël, ils doivent respecter ces lois. Oui? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces fruits? La seule chose, c'est le détruire, pour que personne en profite. Parce que c'est la trouma. On n'a pas un Kohen à qui on peut donner. Jusqu'à quelques années, ils ont vu que c'est un grand gaspillage, mais on n'a pas le choix. C'est pas un gaspillage voulu. C'est un gaspillage que la halakha exige. On n'a pas le choix. Mais c'était des tonnes et des tonnes de fruits et de légumes. Jusqu'à qu'il est venu un rabbin extraordinaire. Moi, j'ai lu cette invention dans le Contras. Quelqu'un m'a prêté une fois un Contras. J'étais comme ça, j'ai vu un article, ça m'a attiré et j'ai vu, c'était quelque chose de génial. Un rabbin, il a dit, pourquoi détruire? On peut le faire légalement sans le détruire. Comment? Quand il y avait la challah qu'on donnait au Kohen, ou les fruits ou les légumes, est-ce que c'est que le Kohen qui le mangeait? Non, il y a sa femme. Même si elle n'est pas Kohen, automatiquement, quand elle est mariée à un Kohen, elle a le droit de profiter. Il y a ses enfants qui sont Kohen automatiques. Il y a aussi les animaux du Kohen. Si un Kohen il a un animal, il a le droit de la nourrir avec la récolte qui s'appelle la trouma. Alors, il y a quelqu'un qui a une idée extraordinaire. C'est venu, ça doit être que Hachem qui lui a envoyé cet éclaircissage. Regardez qu'est-ce qu'il a pensé. Si vous allez jamais à Jérusalem, cherchez ce qu'on appelle en hébreu Gan Achayot Atanachi, le zoo tanachique. Ils ont un zoo qu'on appelle le zoo tanachique. Il y a des animaux cachers. Et ils vous montrent toutes sortes de choses. C'est un zoo tanachique. On appelle ça Gan Achayot Atanachi. C'est ça? Et ça, des enfants, ils ont, quand c'est la mi-fête, ils aiment aller promener là-bas. C'est à Jérusalem, c'est pas loin, vous pouvez le voir. Il s'avère que le propriétaire de ce zoo est Cohen. Alors, il y a un rabbin qui a dit, mais attends, quand on donnait la trouma, qui c'est qui mangeait? Le Cohen, sa femme, ses enfants et ses animaux. Comme les animaux appartiennent à un Kohen, Au lieu de prendre tous les fruits et les rejeter et les détruire, qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, donnez-nous tous ces fruits et légumes, on va commencer à nourrir les animaux. Et aujourd'hui, au lieu de le jeter, ils ramassent tout à Jérusalem et ils donnent à ce zoo. Alors ce n'est plus gaspillé, c'est mangé par les animaux. C'est ça? Qui est un grand mitzvah. Ce soir, on a étudié aussi, quand on s'assoit à manger, si vous avez un animal cachère ou pas cachère, vous avez l'obligation de la nourrir avant que vous mangez. Ça veut dire, si vous avez des poissons dans un aquarium, vous avez travaillé toute la journée, vous avez déjà la langue d'or avec la salive qui coule, et vous voulez venir manger, ah, stop, tu ne peux pas manger. D'abord, donne aux poissons à manger. Je donnerai du gazon dans ton champ à l'animal, et ensuite tu mangeras toi. D'abord, tu dois nourrir ton animal. Tu as un oiseau, tu ne peux pas t'asseoir manger. Tu nourris ton oiseau. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu veux prendre ton petit déjeuner. Non, d'abord nourris ton animal. Que ce soit caché, que ce soit non caché. C'est pour ça que chez les religieux, on ne préfère pas avoir des animaux. Chaque fois que tu t'assois, tu manges, tu as le bout, tu vas étouffer. Non, tu es obligé d'arrêter. Tu es obligé d'arrêter parce que c'est un mitzvah comme tous les autres mitzvot. Alors pourquoi ce problème? Ni poisson, ni oiseau, ni chien, ni chat, ni rien. Tu t'assois à manger, tu te manges tranquillement. Alors voilà, c'est une grande mitzvah. Alors ils ont dit, au lieu de jeter, au moins on va nourrir les animaux. Donc, oui, l'animal est des fois plus chanceux que l'homme. À celui qui est impur. Par exemple, on peut prendre la challah et la donner à un enfant de moins que 9 ans. Ça veut dire, halakhiquement, on aurait pu prendre cette challah, la cuire et la donner aujourd'hui à un enfant de moins que 9 ans. Tant qu'on est sûr qu'il n'est pas parti dans le cimetière. Oui, parce qu'un enfant de moins de 9 ans est considéré pur. Mais le problème, tu donnes à l'enfant, qui sait qu'il ne va pas le donner à son grand frère ou à son père par erreur ou à sa mère sans qu'il le sache? On préfère de le donner à personne et de le brûler. Ça veut dire qu'il y a même aujourd'hui, il y a des possibilités que l'homme le mange, mais l'animal, il n'a pas de statut ni d'impureté ni d'impureté. L'animal peut le faire. Donc, alors ça, c'est entre parenthèses, tout ça pour vous dire que c'est très important que si vous allez en Israël ou si vous l'achetez en dehors d'Israël, les fruits et les légumes, c'est autant que la viande et plus. Il faut avoir absolument une théouda, il faut que ce soit prélevé. Et si vous ne voyez pas la théouda, n'achetez pas. Maintenant, on arrive à la 7e année. La Torah nous dit, vous allez travailler la terre 6 ans, ou bashana shevi'it, et la 7e année, shabbat, shabbaton yela aret. C'est un shabbat pour la terre. Nous avons un shabbat une fois par semaine. La terre, elle a son shabbat une fois par 7 ans. Ça veut dire que on travaille la terre 6 ans, 7e année, c'est un repos. C'est un repos. Pourquoi Hachem a décrété comme ça? Cette mitzvah s'applique qu'en Israël. Cette mitzvah ne s'applique pas en dehors d'Israël. Au point que le Chatam Sofer, il explique, c'est même interdit de faire reposer la terre en dehors d'Israël. Comme il est interdit pour un non-juif d'observer le Shabbat. Quelqu'un qui est non-juif, il n'a pas le droit d'observer le Shabbat à 100%. Il est obligé de faire quelque chose pour le profaner. Le Shabbat a été donné que pour les juifs. Dit le Chatam Sofer, alors si on appelle la 7e année Shabbat à la terre d'Israël, pas en dehors d'Israël, interdit en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, la terre doit travailler durant tout ce que peut travailler, produire et doit travailler. Mais s'arrêter, non. Alors maintenant, la Torah nous donne cette mitzvah. Shabbat Shabbaton, yela aretz. Tu peux rien faire, tu peux rien couper, tu peux rien prendre, même pas irriguer le terrain, couper les branches, rien. Sauf, il y a des lois, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais il y a des lois très spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Au point que je vous dis, c'est tellement compliqué. Vous avez un pot avec une plante. La 7e année, il faut faire attention de ne pas la déplacer au soleil. C'est comme l'irriguer. Et irriguer, c'est interdit. Parce que la plante, elle se nourrit du soleil. Il y a beaucoup de plantes qui se nourrissent du soleil. Si tu la déplaces au soleil, elle profite. C'est comme si tu l'avais irriguée et c'est interdit. Il y a quelques années, comme cette mitzvah s'applique qu'en Israël, il y a quelques années, il y en a qui voulaient faire profiter de les fermiers. Vous savez, ce n'était pas évident jusqu'à quelques années. Ce n'est pas tous les fermiers qui avaient cette émouna que la septième année, on ne fait rien. Septième année, tu n'es pas propriétaire. C'est ton champ, mais tu n'es pas propriétaire. N'importe qui peut arrêter la voiture sur l'autoroute, il peut s'arrêter, prendre tes oranges, tes pommes, tes poires, tout ce que tu possèdes, et tu n'as pas le droit de mettre une pancarte « rentrée interdite ». Tout le monde est propriétaire. Toi aussi, tu peux rentrer. Mais comme tout le monde. Ça prend beaucoup de force et beaucoup de moyens, comme on va expliquer. Alors, il y avait un VAAD, une institution, qui voulait parler à tous ces fermiers qui, normalement, n'étaient pas religieux. C'était des gens non religieux. Comment on va convaincre des gens qui ne sont pas religieux en leur disant, vous savez, la Torah nous dit la septième année, il faut reposer la terre, et la Torah promet. La Torah promet, la terre va produire la sixième année, tout ce qu'il faut pour la septième et la huitième. Mais quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il va dire, oui, garde ces histoires pour toi, c'est bon, continue à croire. Et une personne normale ne fait pas ça. Oui, ce n'est pas normal. Sur la normale, comment tu vas croire que la sixième année, la terre va produire pour la sixième, la septième et la huitième, parce que la huitième, c'est rien que là que tu commences à travailler. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait, le VAAD à Shemitah. Il y avait une institution de Shemitah qui s'est ramassée. Ils ont décidé de venir chez un fermier. Il dit, c'est quoi la largeur de ton terrain? C'est quoi la largeur de ton terrain? Je ne sais pas. Il a, on va dire, 50 dunams qu'ils appellent, 50 acres. C'est ça? Et ils disent, écoute, tu sais quoi? On va te faire profiter. Comment ils le font profiter? Ils ont vendu, il y a quelques années, ils l'ont vendu chaque année aussi, dans les sabbatiques. Ils vendent à tout le monde, hors d'Israël, 2 pieds carrés, 2 mètres sur 2 mètres, c'est ça? Pour $18. De 50 acres, ils divisent le champ en 2 pieds carrés, 2 mètres sur 2 mètres, et ils trouvent des sponsors à $18. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tout l'argent, ils le donnent aux propriétaires pour qu'ils puissent souvenir l'année de Shemitah. D'autre part, ceux qui sont en dehors d'Israël, ils profitent. Parce que ceux qui sont en dehors d'Israël, ils n'auront jamais cette mitzvah. Et c'est une mitzvah qui fait partie, ce sont des mitzvot. Comment moi, je peux avoir le mérite d'observer l'année sabbatique en Israël? Je n'ai pas un terrain. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous achetez un morceau de terrain, 2 pieds carrés, à $18, c'est à vous, pour un an. Vous l'achetez, c'est un contrat qui vous dit, durant un an, le terrain va... Qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est quoi la mitzvah de reposer la terre? Vous irriguez pas, vous labourez pas, vous semez pas. Vous faites la mitzvah à 100%. L'argent va au propriétaire pour le faire profiter. Et d'autre part, le juif de diaspora on a la mitzvah de faire cette mitzvah. Avant cela, qu'est-ce qu'on faisait? Avant ça, il y avait un grand débat. Parce que le grand rabbin d'Israël, Rav Avadia Yosef, il disait qu'il fallait vendre tout le terrain des fermiers israéliens à des non-juifs. À qui? À des arabes. Maintenant, il a dit, puisqu'il s'est vendu à un arabe durant un an, l'arabe a le droit de continuer à travailler, labourer, semer, irriguer, récolter, tout faire sur le terrain, parce que ça n'appartient plus à un juif. Mais les rabbins ashkénazes se sont opposés. Il dit, ça s'appelle détourner la loi. Comment tu le vends à un arabe? Ça veut dire que tu as détourné la loi et tu continues à travailler la terre. Or que la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Shabbat, Shabbaton, que la terre se repose. Mais là, tu fais travailler la terre encore. Ils sont opposés. L'argument de retour était quoi? De Rav Avadia Yosef. Mais attends, aujourd'hui, cette mitzvah est d'ordre toraïque ou rabbinique? D'ordre rabbinique. Cette mitzvah, elle est d'ordre toraïque que quand il y a le Beth Amikdash, le temple. Qu'est-ce qu'il existe cette mitzvah? Regardez, la Torah nous dit, vous allez faire chaque 7 ans une année sabbatique et vous allez répéter ce cycle 7 fois. 7 ans, année sabbatique. 7 ans encore, année sabbatique. 7 fois comme ça, c'est combien? Ça fait 49 ans. Ou Bishnat HaChamishim Shana, et à la 50e année, vous allez sonner le shofar, jour de Kippour. On appelle ça l'année des jubilés. On sonne le shofar dans le grand tribunal de Jérusalem. Et on annonce l'année de jubilé, l'année Shnat HaYovel, Hamishim Shana, 50 ans. Mais quand? Quand il y a le Beit HaMikdash, quand le temple existe. Quand il n'y avait pas le temple, cette mitzvah, elle est d'ordre rabbinique, parce qu'on ne peut plus sonner le shofar. Elle est d'ordre rabbinique. Alors Rabbi Yosef, il dit la chose suivante. Attendez. On a une mitzvah dans l'année qu'on détourne un peu la loi. Il y a une mitzvah où tu détournes un peu la loi. On vient de la passer, pas longtemps. Pessah. À Pessah, il est interdit de consommer le chametz. Pas seulement de consommer le chametz, de posséder le chametz, il est interdit. Qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce qu'on n'importe qui fait quand il y a un peu de chametz qui lui reste et c'est une grande, par exemple, une bakery. Qu'est-ce qu'ils font avec tout le chametz qu'ils ont? Ils le vendent. Chametz, c'est une interdiction rabbinique ou toraïque? Toraïque. C'est de la Torah. Celui qui consomme chametz, c'est Chayav Karet, c'est un entranchement de l'arbre de la vie. C'est une interdiction toraïque. Et quand même, le gens se permettent à le vendre. Et c'est acceptable. Il y a certains rabbins qui sont, ils disent c'est bon. Bon, certaines opinions. Il y en a qui préfèrent non, il y en a qui préfèrent que les choses crues. Mais il y a des manières à travailler avec cette interdiction. Une vente est valable. Alors le rabbin de Yosef dit, attendez, si c'est valable pour le chametz qui dort toraïque, et tu as le droit de le vendre à un non-juif, alors la Shemitah qui est d'ordre rabbinique, ce ne serait pas permis de le vendre? Bien sûr que oui. Alors pour lui, il est permis de vendre durant l'année Shemitah le terrain à un non-juif pour qu'il les cultive et continue à travailler durant l'année. C'est à lui, il peut vendre même la récolte tant qu'il veut. L'année d'après, tu le reprends. La vente est légale. Mais comme je vous ai dit, comme c'était une grande controverse en Israël, il y en a qui disaient oui, contre, pour, ils ont trouvé ce système. On va vendre 2 pieds carrés à des juifs dans la diaspora pour profiter des propriétaires et profiter ceux qui sont dehors, tout le monde s'en profite dedans. C'est ça? Comment? Cette année, ce n'est pas encore shabbatique. Il y en a qui vendent. Ça, et il y en a qui, l'année dernière, ça veut dire la Shemitah dernière, il y a 6 ans, le rabbin, on dit, attendez, la Shemitah s'applique où? En Israël. Mais tout Israël? Non. La Shemitah s'applique sur la carte biblique. Pas la carte topographique qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire qu'Israël aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est grand. En Israël, ils ont fait la guerre, ils ont pris le Golan, ils ont pris... Mais par exemple, Rav Avadia Yosef, chaque année, il répète ça. Il dit, il y a beaucoup de qui viennent de Chutz Laaretz, de Montréal, États-Unis, et ils vont avoir de belles vacances en Israël à Pessah, avec toute la famille, c'est beau. Tu veux profiter d'Israël, du soleil, la plage. Où est le premier endroit qui vient en tête? Et c'est quoi la plus grande publicité en Israël d'aller? Elat. C'est beau, c'est pas cher, c'est cachère, c'est tout ce que vous voulez. Le problème, Elat ne fait pas partie d'Israël. Tu aurais fait mieux de rester en Canada. Tu n'as rien fait, tu as gaspillé des billets d'avion. Bon, tu voulais avoir une petite vacance, c'est bon, mais pas en Israël. Tu voulais profiter d'Israël, pas en Elat. Parce que sur la carte biblique, Elat ne fait pas partie d'Israël. Elle fait partie de la région d'Israël, oui. C'est à nous. Mais en vérité, Elat appartient à l'Égypte. Elle est au sud. Ça? Non, c'est sûr que non. Grande question sur Gaza. Gaza. C'est ça? Il y en a qui disent qu'il appartient à Israël. Machloket. C'est pas rien que pour la Shemitah. Alors, il y a des rabbins qui ont dit, attendez, il y a des parties en Israël que sur la loi, dans la loi d'Halakha, ça veut dire dans les applications des mitzvot, c'est pas Israël. Pourquoi pas cultiver ces endroits? Et là, tu fais chaud. Mais c'est bon. pour tout ce qui a besoin de la chaleur. Les citrus, ils ont besoin de la chaleur. Les étrogues ont besoin de la chaleur. Il y a des fruits et des légumes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va cultiver Eilat. Alors, ils vont commencer à acheter des terrains et planter dans ces régions. Ça va pousser en Israël. Il n'y a pas de mitzvah de le faire reposer. Et là, on peut acheter. Et le propriétaire n'a aucun péché. Alors, il y a des manières de faire. Alors maintenant, c'est pas rien qu'Eilat. Il y a des autres endroits qui sont, ça veut dire qu'ils sont pas exactement dans la carte. Si vous voulez voir, par exemple, si vous avez le temps un peu Shabbat, regardez, pas tout le Chumash, dans certains Chumash, à la fin du Chumash, vous avez la carte biblique. Parce que dans le livre de Devarim, le cinquième livre, là-bas, la Torah décrit toutes les frontières d'Israël que la Torah nous a données. Maintenant, quand ils nous ont fait la guerre, on n'avait pas le choix que de se défendre et on a pris un morceau de terrain par la loi civile ou par la loi de l'ONU, ça nous appartient. Ça fait partie d'Israël. Mais pas pour les applications des mitzvot. Alors, si vous voulez voir, par exemple, le chumash bleu, Har Scroll, il y a des autres chumashim. C'est pas rien que ce chumash. Plusieurs chumashim, à la fin du cinquième livre, qui est Bamidbar, vous allez trouver une carte, la carte biblique, et vous allez voir Eilat. Tout à fait en bas, elle ne fait pas partie. Alors, si vous planifiez des vacances, pas d'été et de Pessah, et vous voulez être en Israël, et là, c'est le dernier choix. Peut-être pour la mi-fête, vous pouvez aller visiter, mais pour la fête, quelqu'un m'a raconté, il a fait ça cette année, il m'a raconté, le premier soir de Seder, il m'a dit qu'il n'y avait même pas, dans la salle à manger, il n'y avait même pas mettre une épine. Rien. Tu ne pouvais même pas mettre rien, même pas un stylo par terre. Rien, c'était craqué, il m'a dit. Deuxième soir arrive, lui il était bien habillé, sa femme, ils arrivent, personne. Il y avait une famille de 30 personnes à table, avec une table, et lui et sa femme, et ses deux enfants. Il pensait que les gens vont venir. Il m'a dit, il a fait le seder tout seul. Il n'y avait personne. C'est ça? Alors, Eilat, c'est pas le choix d'aller à Pessah. Mais de toute façon, pour ces lois-là, pour vous dire qu'il y a des endroits où cette loi, même en Israël, ne s'applique pas. Alors, qu'est-ce que la Torah veut? La Torah veut qu'on fait reposer la terre. Maintenant, regardez. On va prendre un petit midrash. Peut-être vous l'avez écouté, peut-être pas. Peut-être le contexte est familier. L'histoire, c'est l'histoire de Korach. On va lire dans quelques semaines l'histoire Korach. Korach, c'est le cousin de Moshe Rabbeinu. Et Korach va dénommer Moshe Rabbeinu et prendre sa place. Ou plutôt la place d'Aaron à Cohen, le grand prêtre. Dit le Midrash, Korach, la Torah le dit plutôt, Korach est arrivé de convaincre tout le peuple d'Israël à son côté. Tout le peuple d'Israël à son côté. Au point que la Torah dit que le lendemain, quand ils étaient avec Korach, Akosh Baruch Hu donne ordre à Moshe et à Aaron et à leur famille exclusivement de se séparer de tout le peuple car tout le monde va être englouti. Tout le monde va mourir. Moshe y prie pour que ce décret n'arrive pas. Il a réussi d'épargner tout le peuple d'Israël. 300 personnes sont mortes. Que Korach et sa famille, Datan Vaviram et leur famille. Le Midrash veut comprendre. Comment est-ce possible que Korach a réussi de convaincre tout le peuple d'Israël comme Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah? Après que Moshe Rabbeinu est monté à Sinaï, et après qu'on a vu que Dieu lui a parlé, et Dieu lui dit, je te parle en public pour qu'ils comprennent que toi tu es mon messager, et ils le croivent, car ils l'ont écouté avec leurs oreilles, ils l'ont vu avec leurs yeux. Comment est-ce qu'il est possible que Korach a détourné l'esprit de tout le monde? Il fallait avoir un argument, quelque chose, une bombe atomique pour tourner dans une nuit. Ça a pris une nuit pour détourner tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Le lendemain, après qu'il leur a parlé, toute la nuit, il a tourné dans la maison, tout le monde était contre Moshe Rabbeinu. Regardez qu'est-ce que nous dit le Midrash. Le Midrash, il dit, Korach ramasse tout le monde. Il leur dit, vous savez, on vient de recevoir la Torah. Mais vous ne croyez pas s'il y a des choses qui sont très bizarres dans cette Torah? Vous croyez pas que Moshe Rabbeinu a dû inventer ce livre? Comment? Il dit, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une veuve avec ses deux filles, deux jeunes filles qu'elle doit marier. Le mari, malheureusement, est décédé. La femme est là seule. Elle a un petit morceau de terrain que son mari lui a laissé. Un jour, elle vient pour préparer ce terrain pour semer. Viens Aaron et Moshe. Madame, fais attention que quand tu vas labourer le champ, il ne faut pas le labourer avec le taureau et l'âne attachés ensemble. Ça s'appelle Kilaïm. Alors fais attention, il ne faut pas le faire. Donc, la pauvre, elle, comme elle est veuve, elle n'avait ni taureau, ni âne. Mais quand elle est partie demander au voisin, elle dit, tu sais quoi, je te prête mon taureau. L'autre dit, tu sais quoi, je te prête mon âne. Parce qu'il faut au minimum deux animaux. Et là, mon cher Rabbi me dit ça, il dit, comment je vais faire? Donc, je vais faire rien qu'avec le taureau, rien que ça va être difficile, je vais le faire. Une fois que le champ est labouré, la madame, elle vient pour semer. Elle veut planter. Viens, mon cher Aaron, encore. Madame, fais attention. Tu sais que tu ne peux pas planter n'importe quoi ensemble. Il faut séparer les grains. Il faut mettre le grain de blé seul, le grain d'orge seul, les autres grains seuls. Il faut faire des sillons avec des grains différents, chaque espèce à part. Maintenant, Korach dit, mais cette madame, la pauvre, elle est partie demander à tout le monde, donnez-moi un peu ce que vous avez. Quelqu'un lui a donné un sac de grains de blé, l'autre lui a donné un sac de grains de d'orge. Elle a tout mélangé déjà. Toute la nuit, elle s'est assise à trier le blé, et à trier le l'orge, et à trier le... Toute la pauvre, elle a travaillé, des nuits, elle a travaillé pour séparer tout. Donc elle a dit, bon, kapara, yala, elle va... Elle sème, ça. Dès que ça pousse, viens Aaron, seul. Madame, n'oublie pas, moi je reçois 2%. Il faut que tu me donnes 2%. Comment? J'ai à peine... Non, il faut que tu me donnes 2%. Donc, elle lui donne 2%. Dès qu'il termine, viens mon cher Abenou. Qu'est-ce que mon cher Abenou? Lévi, madame, moi c'est 10%. Donne-moi 10%. Dis comment? 10%. Et après on lui dit, ma sœur génie, ma sœur Annie. Là, elle a vu que ce n'est pas rentable cette affaire. Elle dit comment? Elle a récolté ce qu'elle a récolté. Elle avait un peu d'argent. Elle est partie sur le marché. Elle a acheté un mouton. Ou deux moutons, elle a acheté. Elle dit, c'est beaucoup moins compliqué que cette affaire. L'année d'après, le mouton a accouché un premier-né. Viens Aaron et dit, madame, est-ce que tu n'as pas lu qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Le premier-né, à qui il appartient? Au Kohen, c'est un Bechor. Il appartient au Kohen. Donne-moi-le. Il commence, le premier bébé. Oui, justement, ça m'appartient. Il lui prend le bébé. Elle dit, bon, au moins, je vais tondre la laine. Elle commence à tondre la laine. Viens Aaron encore. Il dit, madame, tu n'as pas lu la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit? Que quand tu tends la laine, la première récolte ou le premier batch, c'est au Kohen. Alors, il faut... Mais comment? Il y a à peine que... Oui, tu me le donnes? Alors, il a dit, oh, ça devient trop compliqué. Tu sais quoi? Je vais l'égorger, je vais le manger, la viande, et c'est fini. Elle égorge, viens Aaron encore. Hé, madame, tu sais que chaque fois que tu égorges un animal, la patte droite, la joue et les intestins appartiennent au Kohen. Il faut que tu me le donnes. Mais comment? C'est un petit mouton. Oui, mais il faut que tu me le donnes. Bon, tu sais quoi? Toi aussi, tu ne vas pas profiter. Je sacrifie cet animal. Sacrifice? Encore mieux, ça m'appartient en complet. Le Midrash continue. Korach a commencé à leur montrer la beauté de la Torah, que tout appartient ou à Aaron ou à Moshe. Ce qui a fait qu'il leur a convaincu que la Torah a été inventée par Moshe Rabbeinu. Que tout lui appartient, tout lui revient à lui ou à son frère. Le lendemain, ils avaient tout le peuple contre eux. Il dit, c'est vrai. Quoi? Chaque fois qu'on va semer, il va venir nous dire, séparer les animaux, séparer les graines, et la récolte, 2% à ton frère, et 10% à toi. Et après, si c'est un animal, la laine, le morceau de... Il dit, alors, et tous, sans exception, ils étaient contre lui. C'est grâce à la prière de Moshe Rabbeinu qu'ils ont été sauvés. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelque chose de loin de nous? Non. Ça, c'est quelque chose qui peut être en pratique. Pour nous. Pour nous, comment? Bon, peut-être la majorité de ces mitzvot ne s'appliquent pas, mais la Shemitah s'applique toujours. La Shemitah s'applique toujours. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est quoi la Shemitah? La Torah te dit, tu as un champ, et tu dépends de ce champ. Avant, ils étaient tous fermiers presque. Il n'y avait pas des autres métiers. C'était rare le commerçant. Ils étaient presque tous fermiers. La Torah dit, tu travailleras 6 ans et la 7e année, tu auras confiance en Dieu que le champ va produire. Mais qui c'est qui me promet? Est-ce qu'il y a une garantie? Non. Tu dois avoir confiance. Tu dois avoir émouna. Tu dois avoir la émouna. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu dois pas, mais c'est pour ton intérêt, tu dois donner maaser de ton gain. Ça veut dire que tu gagnes de l'argent, tu donnes 10%. Maintenant, il y a beaucoup de manières de le faire. Il y en a qui vont te dire, non, mais attends, 10%, mais moi aussi, je dois vivre, non? Alors, je vais d'abord prendre ce qui me revient à moi, et après, je vais donner 10%. Par exemple, je loue une maison, je loue une voiture, j'ai une ligne téléphonique, j'ai de l'électricité, je dois acheter du manger, je dois acheter des habillements, moi, mon mari, ma femme. Qu'est-ce qui reste à la fin? Oui, bon, il reste 10 dollars, je vais donner 10 dollars à ma sœur. 1 dollar, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir et dire, non, il faut donner ma sœur. Moi, je donnerai 10 bruts. C'est que ça donne. C'est un test d'émouna. Il y en a quelqu'un qui va venir, un korach, qui va vous dire, mais tu es fou. Tu vas commencer à donner maaser et tout. Qu'est-ce qui va rester pour toi? À la fin, tu auras besoin de la tzedaka. Il va te convaincre exactement comme Korach a convaincu tout le monde. Mais regardez, j'ai vu ce matin quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Emouna? Vous savez, il y a 2 choses. J'ai toujours cherché et c'est aujourd'hui que je l'ai trouvé. Il y a 2 langages chez nos sages. Vous l'avez sûrement écouté. Il y a Emouna, qui est la croyance. Il y a Bitachon, la confiance. Quelle est la différence entre les deux? On dit Yesh liftoach b'Hashem, il faut avoir confiance en Hashem. D'autres parents disent Areni ma'amin, je crois en Hashem. C'est quoi la différence entre croyance et confiance? Et comme on a répété plusieurs fois, en hébreu, la langue hébreu ne porte pas de synonymes. Il n'y a pas de synonymes en hébreu. En français, il y a beaucoup de synonymes. Tu peux décrire la même chose en synonyme, tu peux dire 10 mots, ça revient tous au même objet. En hébreu, ça n'existe pas. S'il y a une différence, il y a une nuance entre 2 mots qui veulent désigner quelque chose, peut-être une chose, mais ça veut dire 2 choses différentes. Emouna et Bitachon. Regardez ce qu'il dit ici le Rabbeinu Bechaye, un Rishon, il y a 900 ans à peu près. Il dit que il y a une différence entre la Emouna et le bitachon. Il dit ici que la emouna nichlelet midat bitachon. La emouna, la croyance, elle est inclue dans la confiance en Dieu. Tu crois en Dieu, mais ceci est inclus dans la croyance, dans la confiance en Dieu. Ça veut dire que entre emouna et bitachon, qu'est-ce qui est plus fort?
Confiance.
Bitachon, confiance. C'est ça, confiance, bitachon. Il dit, regardez, c'est quoi la différence? Il dit ici, chez un Adam Boteach, la personne n'a pas confiance, elle a bémiché ma'amin bo, shayecholet beyado le malet shalato. On fait confiance à quelqu'un qu'on sait qu'il peut faire la chose qui doit se faire. C'est ça? Mais maintenant, ma'amin, mais c'est lui qui croit en quelqu'un ou en quelque chose, itachen shelo ye boteach. Moi, je crois qu'il peut le faire, mais je doute toujours. Je doute, peut-être il va le faire. Je crois qu'il peut le faire. Mais est-ce qu'il va le faire ou pas? C'est en doute. Mais quand je fais confiance à quelqu'un, c'est à 100%. Ça veut dire que la émouna, la croyance, elle fait partie de la confiance. Et la confiance, c'est un niveau plus haut. Quand j'ai confiance, c'est confiance à 100%. Je sais qu'il va le faire, il est capable de le faire, il le fera. Quand je crois en quelque chose, oui, je crois, mais est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va arriver? Pas sûr. Regardez un machal extraordinaire. Il y a quelqu'un que son hobby, c'était de grimper des montagnes. Il allait sur les Everest, sur les Alpes. Un jour, après des années et des années, il était sur une très haute montagne. Il a raté son coup. Il a mis le piquet. Il croyait que c'est solide. Il commençait à monter. C'était faux. Là, il n'était pas bien attaché et il tombe. Il ne voyait même pas le parterre. Même pas, vous le regardez en bas, il ne voyait rien. La première chose, il dit, Shema Israël, Hachem, aide-moi. En disant ça, tout d'un coup, il y a comme une branche qui sort de la montagne et lui, il s'attrape sur la branche. Mais là, il a dit, sous lui, il n'y a rien. Il n'y a pas où poser le pied. Il n'y a rien. Et là, il est en train d'attraper et il sait que c'est une question de secondes ou de minutes. Et là, il commence à perdre sa force. Il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, il dit, il crie encore. Hachem, tu m'as sauvé. La suite, c'est quoi? L'Orient, il voit qu'il lui dit, lâche la branche, je t'aiderai. Il regarde. Question pour vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez confiance?
Non.
Ça, c'est une question piège. Qu'est-ce que c'est confiance? Hachem nous aide dans beaucoup de situations. Et quand on a vraiment besoin, on regarde de manière naturelle. Le miracle n'est pas là, mais il m'a aidé l'autre fois. Est-ce qu'il va continuer à m'aider? Ok? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Pourquoi la croyance n'est pas si forte? Pourquoi la croyance n'est pas si forte comme la confiance? Confiance, c'est plus fort. Croyance, c'est pas si fort. C'est fort, mais c'est pas si fort. Pourquoi? Il dit, quand tu m'amines, quand tu crois en quelque chose, tu sais que tout dépend de toi aussi, de tes actions. L'exemple de la Torah, je vous donne un exemple. Yaakov Avinu. Yaakov, c'est un patriarche. Et selon nos sages, c'était le patriarche le plus élevé au niveau spirituel. Bechira Avot, le choisi de tous les patriarches. Il va 22 ans à Haran. Avant d'aller, il est en risque de se faire tuer. Hachem l'a sauvé. Il arrive à Haran, il y a son beau-père qui essaie de le rouler de tous les côtés. Hachem l'a sauvé. Il a marié Rachel et Léa. Il demande à Hachem d'avoir des enfants, il a 11. Il demande à Hachem d'avoir une robe et du pain à manger, il a toute une richesse. Après 22 ans, il revient en Israël. Il a peur. Vaïra Yaakov, et Yaakov a peur. Il dit, Rachid, de quoi tu as peur? Mais tu es un tzaddik? Tu es un patriarche? Si toi tu as peur, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Dit Rashi, il a peur pourquoi? Peut-être il a pu faire une mauvaise action, que toutes les promesses que Dieu lui a fait dans son songe, avec l'échelle, avec les anges, et à Dieu lui promet, je te protégerai là où tu iras dans le monde, je te donnerai à manger, et tu retourneras en bonne santé, avec des femmes, des enfants, chez ton père, et voilà, tout s'accomplit, et Yaakov tremble. Parce qu'il y a son frère qui veut le tuer. Bon, mais avant, il voulait te tuer, il t'a sauvé. Ton beau-père voulait te rouler, il t'a sauvé. Qu'est-ce que tu as peur maintenant? De quoi tu as peur? Dit Rashi, il a peur, peut-être qu'il a fait une action, qu'à cause de cette action, tout son mazal va changer. Dit le Rabbeinu Bechaye, ça c'est la croyance. La croyance, je sais, je crois en Hachem. C'est sûr, à 100%. Areni ma'amin b'emouna shlema. Je crois avec une emouna complète qu'Hachem existe, qu'Hachem est là, Hachem récompense, Hachem dans tout. Mais peut-être que j'ai pu faire quelque chose que je ne mérite pas. Mais quand vous avez le bitachon, tu sais quoi, je ne mérite pas. Mais à Dieu m'a fait tellement de choses, jusqu'à date, il continuera à le faire. Même si je ne mérite pas. Je n'ai pas toujours mérité, il l'a fait. Il continuera à le faire. C'est bitachon. Alors si vous êtes dans une situation où vous êtes une main attrapée sur une branche, en bas, on ne peut même pas voir le bas. Mais on sait déjà, en tombant, on a fait Shema Israël et Hachem nous a envoyé une branche pour s'attraper. Et Hachem te dit, lâche et aie confiance. C'est à voir, ça va quoi. Voilà. Vous le débattrez après le cours. Bon, si vous avez des questions, oui. L'obligation, première fois, du brut. Première fois. Ça veut dire que si vous ne l'avez jamais pratiqué, c'est la première fois que vous le faites, vous allez donner du brut. Exemple, 1000 dollars, c'est 100 dollars. À partir de la deuxième fois, normalement, il faut donner de son net, pas de son brut. Net, qu'est-ce que c'est net? Là, ça devient compliqué. Comment je calcule le net? Ok? Si c'est un magasin, c'est facile. Pourquoi? Dans un magasin, tu as vendu une chemise. Oui? Tu l'as vendue à 20 dollars. Exemple. Bon, est-ce que ça c'est le net? C'est le brut. Parce que la chemise à toi, elle t'a coûté, on va dire, 8 à 10 dollars. Oui? Maintenant, je ne rentre pas dans... Rien que déjà là, si je veux m'arrêter là, alors je dois donner minimum, ça veut dire 10% du 10 dollars ou de 12 dollars que j'ai fait. Mais là, il y en a qui permettent, il y a des décisionnaires qui permettent. Attends, mais cette chemise, elle est dans un magasin. Et ce magasin, il y a un loyer, et puis il y a de la lumière, il y a des employés, ça. Bon, comme je dis, si vous commencez à faire ça, il ne restera rien du chemise. Vous êtes toujours déficitaire. Mais il y a des trucs de base. Loyer, vous ne pouvez pas enlever, ni dans le magasin, ni dans la maison. Parce que vous êtes obligé de louer le local ou la maison. Électricité, oui, oui, tu as besoin d'électricité. Alors, on va te permettre de l'enlever, mais strict minimum. Qui veut dire? Il y en a qui sont frileux. Alors, il fait, on va dire, moins 5 dehors. Lui, il doit avoir le chauffage à 25. Parce qu'il veut que le magasin soit chaud. Tout celui qui rentre, il se chauffe. Normal, c'est quoi? 21, 22, oui. Mais non, toi, tu reçois un bill d'électricité, 1000 dollars. Mais en vérité, tu aurais pu payer 500 dollars. Alors, tu ne peux pas dire, ça m'a coûté 1000 dollars. Pour chauffer le magasin, parce que ce n'est pas 1000 dollars. Même chose, on te permet, certains enseignants permettent d'enlever du maaser la ligne téléphonique. Mais la base de la ligne téléphonique, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est 20 dollars, 30 dollars, c'est ça? Mais non, toi tu veux avoir des appels interurbains. Tu veux avoir l'afficheur, tu veux avoir l'appel en attente, tu veux avoir, je ne sais pas, il y a tellement de tu ne sais plus, c'est ça? Tu ne veux pas enlever tout ça? Tu dois enlever le strict minimum, strict minimum. Alors, si tu rentres dans tous ces calculs, ça devient compliqué. Mais si quelqu'un veut, il doit aller au strict minimum. Le manger, c'est quoi le manger minimal d'une famille? Du pain, du lait, un peu de boisson, un peu de fruits, de légumes. Maintenant, quelqu'un va au restaurant chaque soir et après il veut le... Non, ça me coûte le restaurant 1000 dollars par mois. Oui, mais est-ce que tu es obligé de le faire? Non, alors tu parles de l'envolement. C'est mieux de le donner... sur le brut, plus ou moins le brut et le strict minimum. Si on fait des calculs, ça doit être des calculs vraiment restreints. Pourquoi? Parce que plus c'est juste, plus que le calcul est juste, plus que la bracha et la promesse est là. Dieu promet, vous donnez 10% juste. Et c'est la dernière Mishnah dans le chapitre 1 de Maxime des Pères. Ne donne jamais le maaser plus ou moins. Le maaser doit être exact. Si tu donnes plus ou moins, il n'y a pas la garantie. La garantie d'Hachem, c'est si c'est exact, je vous donne. Si ce n'est pas exact, je vous donne aussi, mais pas autant. Oh, ça, il faut bien calculer. Ça, c'est rapide. Il y a beaucoup de...
Les impôts.
Les impôts. Non, regardez. Il y a des retours des impôts. S'il n'y a pas de retour, c'est quelque chose d'autre. Alors là, c'est vrai. Votre net est moins. Mais si vous avez un retour d'impôts, du retour d'impôt, il faut donner maaser. Oui, parce que c'est du gain. Vous avez gagné. Vous avez un retour. Bon. Oui, exact. Tu peux donner plus, mais pas moins. Tu peux l'arrondir plus, mais pas moins. C'est-à-dire 29 dollars et 80 sous, c'est pas 29 dollars. À moins que vous voulez donner exact, oui. Vous pouvez donner exact, mais toujours si vous voulez...
Pas moi.
Pas moi, exactement.
Le maaser, ça se donne annuellement,
mensuel. Le maaser, il faut liquider à la fin de l'année. Ça va par cycle d'un an. Ça veut dire que vous pouvez le donner quand vous voulez. Mais par expérience, comme ça disent le rabbin... Si vous allez calculer toute une année, à la fin, ça peut donner 1000, 2000, 3000, 4000, et là, vous voyez, c'est trop, vous n'arrivez pas à donner. comme vous voulez, chacun, mais il faut savoir que plus que ça s'accumule, plus difficile que c'est donné. Le maaser, il faut le donner normalement aux études de Torah. Tout ce qui est études de Torah. Kollel, yeshiva, ça. Des gens nécessiteux. S'il y a des pauvres, des gens qui n'arrivent pas à terminer le mois. Ce n'est pas nécessairement des gens... Bon, on essaiera de choisir des gens qui étudient la Torah, mais même chez vous, à la famille, s'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la difficulté de terminer le mois, c'est une mitzvah de lui donner aussi. C'est ça? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ça, parce que tout ce qui est obligation, on ne peut pas s'acquitter avec le maaser. Tout ce qui est obligé, on ne peut pas donner maaser. Maaser, on peut le donner à quelque chose qui est optionnel, pas obligatoire. Alors, est-ce que l'école juive, c'est obligatoire, oui ou non? Alors, il y en a qui disent, puisque obligatoire, c'est comme louer une maison. Tu ne peux pas enlever le loyer ou l'hypothèque, c'est ça? Il y en a qui disent oui, parce que en vérité, tu aurais pu envoyer tes enfants à une école normale et le soir leur donner des cours de Torah. C'est un débat. Si une personne peut s'abstenir, c'est mieux. Si elle ne peut pas, vraiment parce que c'est trop. Alors, combien vous aurez payé dans une autre école? Mieux, un peu moins que cette école que vous envoyez. On va dire c'est 1000 dollars. Et là, ils vous chargent 3000 dollars. Alors, la différence entre le 1000 et le 3000, qui est 2000, vous pouvez donner le maaser. Comptez le 2000 comme maaser, on va dire. Bon, c'est pas court maaser ce soir, mais... bon. Alors, rapidement, on va pas trop tarder. Rapidement, in halakha. Si vous vous rappelez,